Il est 6h45 sur France Culture et c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Et bonjour Jacques Meunier, vous vous souvenez qu'on en parlait mardi, ce sont 60 milliards d'aides au développement pour les États africains qui ont été promis par la Chine, premier investisseur en Afrique, premier créancier aussi, serait-elle également le principal influenceur du continent? Bonjour Jean-Joseph Boileau.
Bonjour.
Merci d'être venu. Vous êtes économiste et conseiller au club du CEPI et bien sûr auteur de l'inoubliable Chine d'Afrique hein, chez Odile Jacob. Alors 53 pays africains étaient représentés, 60 milliards de dollars de promesses financières pour ce 7e forum sino-africain à Pékin et des investissements qui posent la question de leur dépendance. Le problème, il a deux aspects rapidement. D'un côté, la domination bien sûr écrasante des financements chinois en Afrique et dans le monde via les routes de la soie et autres. De l'autre, la préoccupation croissante pour une crise des dettes africaines qui atteint 40%, voire 70% du PIB dans certains cas. Les institutions s'en sont inquiétées ouvertement cette année et d'autres s'interrogent finalement sur les conséquences politiques, car la même question se pose non pas seulement en Afrique mais en Asie, au Sri Lanka par exemple ou en Malaisie, au point que certains observateurs amateurs de formules parlent maintenant d'une diplomatie de la dette piégée ou piégeuse. Alors la Chine reste un vrai moyen de faire vivre une classe moyenne, de diversifier des partenaires, mais au prix de contreparties aliénantes ou moins transparentes, disent les détracteurs, particulièrement en Afrique. Peut-être, en tout cas, la remarque sur ce forum qu'on peut faire, Jean-Joseph Boileau, c'est que le président Xi Jinping a dû se défendre quand même de former un club chinois. Il a revendiqué des coopérations mutuellement bénéfiques. Les présidents africains se sont défendus d'une dépendance, d'une influence politique. Ça, c'est inédit quand même lors de ce forum.
Oui, c'est pour ça que je préfère ne pas tomber dans le China bashing, moi. Y a trop l'occasion de ne regarder que les aspects d'une médaille et c'est un peu prendre les Africains pour des imbéciles, quoi. Hein, je dis les Africains, pas seulement les chefs d'État, certains le sont, mais les Africains en général. Et si vous regardez la façon dont est perçu ce sommet et le rôle que joue la Chine aujourd'hui, on est très très loin de ce qu'on entend à Paris ou New York. Il y a quelque chose d'extrêmement important qui se passe, c'est la synergie entre deux continents, c'est pas des petits pays. Ce sont des continents d'1,5 milliard d'habitants. C'est une synergie économique qui a repris forme, enfin qui a pris forme lentement en réalité, et récemment, c'est-à-dire au début des années 2000. Le FOCAC, c'est-à-dire ce sommet, son premier, ça a été en 2000. Et qui a atteint des montants faramineux. Je suis très surpris à chaque fois que je vois en Afrique, s'il y a bien une chose qu'on voit de visu partout, c'est effectivement l'ampleur de cette convergence entre les deux. Je dis bien convergence entre les deux, c'est pas seulement Pékin qui décide. Lorsque vous avez à Canton, par exemple, la diaspora africaine qui est installée, qui fait son emplette, ses courses et qui envoie des containers entiers vers l'Afrique, c'est pas la Chine qui décide. Et la moitié du commerce courant entre la Chine et l'Afrique se passe comme cela. Et alors, au cul du camion, par exemple.
Précisément, si on en reste juste sur la question des financements, donc 60 milliards de dollars annoncés cette fois, c'était 60 milliards de dollars annoncés au dernier FOCAC en 2015 également. Simplement, là-dessus, on a peu de précisions, mais on sait que 15% de ces 15 milliards sur ces 60 milliards vont être sous forme de dons et d'aides gratuites ou sans intérêt. Qu'est-ce que ça signifie selon vous? Est-ce que c'est un outil diplomatique qui est avancé là?
C'est rien du tout, 60 milliards, il faut quand même être sérieux. Vous savez, c'est des slogans, Xi Jinping, là, ce qu'on appelle Xi le Grand, là, hein, maintenant, c'est le grand timonier, c'est lui qui est à l'origine de de vouloir tout mettre dans la route de la soie. Je prends l'exemple, le géant suisse de la chimie agricole Syngenta, les Chinois ont déboursé 44 milliards de dollars. Donc, c'est quoi 60 milliards de dollars pour un continent d'1,5 milliard d'habitants, sur une durée dont on ne sait pas très bien exactement? Bon, donc c'est les effets d'appel. Non, un vrai sommet, pour avoir été diplomate moi-même, c'est ce qui se passe dans les coulisses, ce qui se passe avant, et puis ce qui va se passer après. Donc, deux éléments sur ce que vous dites. Il y a de réelles raisons de s'inquiéter de la opacité dans laquelle beaucoup de contrats sont signés, des garanties avec laquelle j'ai pu le voir, par exemple, en Éthiopie, mais vous avez cité le Sri Lanka, des garanties qui sont prises sur des installations portuaires stratégiques, sur lesquelles des désastres écologiques vont, par exemple, je l'ai vu en Tanzanie. Donc c'est ça qui pose problème. C'est la véritable gouvernance. C'est pas des chefs d'État qui s'entendent entre eux. C'est comment vis-à-vis de la société civile, on met sur la table les réelles données du problème. La difficulté, c'est que les Occidentaux font pas mieux et ils font parfois pire. Il faut bien comprendre que les Africains ne disent pas à la Chine, ah, on vous aime. C'est de dire finalement la Chine, elle fait pas pire que les autres, mais au moins elle met de l'argent. Et 60 milliards, c'est quoi? C'est en gros 30 à 35 milliards par an. Or, l'Afrique a besoin de 50 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures par an. Vous rendez compte que la Chine met plus de la moitié maintenant. Et ça se voit, je vous parlais de l'Éthiopie, par exemple. Il y a une quinzaine d'années, j'y étais allé, il n'y avait pas de route. Là, j'y suis allé en janvier. Partout, il y a des routes. Il y a des bus chinois. L'aéroport a été entièrement fabriqué. Il y a la rapidité aussi qui joue là-dessus. Et donc, le problème, c'est que la Chine atteint ce qu'on appelle une position d'hégémonie qui casse la concurrence. Et c'est ça le vrai problème. Alors, qui doit répondre et comment on doit répondre? Ce que disent les Africains, je pense qu'ils ont raison. C'est vous, les Occidentaux, qui devez répondre et offrir des produits, des équipements.
C'est ce qu'a dit Paul Kagame.
Mais bien sûr, je l'ai vu en Éthiopie. Ils ont annulé un contrat avec les Chinois, par exemple, au profit d'une société de construction de routes italienne. Et ils ont argué de ce que les autorités éthiopiennes, ils ont argué de ce que la société chinoise avait fait preuve de corruption. Alors, vous voyez, il faut arrêter de dire que les Africains sont quand même des imbéciles.
Et alors, je disais, ce problème, il a plusieurs aspects. C'est quoi le principal enjeu, justement, de ces déclarations lors du sommet? Est-ce que c'est de répondre à un climat un peu soupçonneux, voire vindicatif? On se souvient des propos de Rex Tillerson qui disait cet été, il y a souvent le modèle de financement chinois qui est fait de telle manière que lorsque le pays a des difficultés financières, il perd le contrôle de ses propres infrastructures, de ses ressources. Est-ce que c'est cette conjonction entre ces grands niveaux de dette de pays africains et cette prééminence chinoise dans les investissements qui place la Chine en position, on pourrait dire, de responsabilité, ou alors c'est qu'il y a effectivement trop de transactions opaques, vous avez cité certains pays.
Mais beaucoup trop de transactions opaques, beaucoup trop. C'était de l'aide liée, mais en fait c'est ce que la France a fait pendant 20 ans. Et c'est, il faut le savoir, ce qui est à l'origine de la crise de la dette africaine dans les années 80-90. Car on oublie, si la Chine est aussi forte aujourd'hui, si elle est arrivée, c'est parce qu'elle est arrivée à un moment où la crise de la dette occidentale, c'est-à-dire nous qui avions prêté des fonds à l'Afrique et elle était incapable de rembourser, on lui a appliqué des programmes d'austérité majeurs. C'est ça qui explique l'arrivée de la Chine sur le devant de la scène, et son aura, il faut le dire, parce que pendant un premier temps, il n'y a eu que des bénéfices. Maintenant, il n'y a pas que des bénéfices. Et alors, d'abord, la Chine s'inquiète elle-même, elle s'inquiète, il ne faut pas croire qu'elle pense qu'elle peut comme ça débourser partout des milliards et tout d'un coup, même l'Éthiopie, j'ai pu le voir, ces programmes sont basés sur un concept clé, qui est que l'Éthiopie va devenir une petite Chine exportatrice, un petit dragon. Or, le total des exportations manufacturées éthiopiennes l'an dernier, c'est 300 millions de dollars. Comment voulez-vous repayer 3 milliards de dollars sur cette ligne de chemin de fer, 1 milliard de dollars sur les routes, etc., avec un modèle qui ne marche pas? Ce que j'ai écrit dans l'alternative économique, c'est le modèle chinois ne marche pas en Afrique, point. Mais les fonds financiers, les groupes chinois apportent beaucoup à l'Afrique. Ça, il faut comprendre cela. Ils apportent beaucoup et notamment, ils apportent le réveil de l'Occident. Il faut espérer en tout cas.
Et alors, vous avez cité certains pays, mais il y a aussi le cas de risques insoupçonnés, on pourrait dire pour la Chine. Tout n'est pas bénéfique pour elle. Par exemple, à Djibouti, la Chine commence à déchanter, disait Le Monde en février 2018, parce que certains pays africains aussi non seulement concluent des gros contrats avec la Chine, mais aussi, disons, parce que Djibouti à l'époque, pardonnez-moi, avait simplement rompu un certain nombre de contrats avec la Chine au profit d'Indiens, par exemple, ou de groupes étrangers.
Mais bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas prendre les Africains pour des imbéciles, et la plupart de nos analyses partent un peu de ce postulat. Si les Africains le font, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait une convergence possible, et qu'il faut quand même le dire, quand vous allez dans n'importe quel petit village en Afrique, et que vous voyez aujourd'hui le smartphone chinois, les chaussures chinoises, etc., bon, arrêtons de dire que c'est que de la mauvaise qualité, on en a même sur nous tous. Donc vous comprenez, les Africains votent un peu avec leurs pieds là-dessus. Mais en même temps, ils savent très bien. J'ai été sur des chantiers, par exemple, avec des Africains, parce qu'il y a beaucoup d'Africains sur les chantiers chinois en Afrique. Faut arrêter de dire qu'il y a que des Chinois. La main d'œuvre coûte trop cher maintenant. Vous savez, on a le problème des Chinois, c'est que leurs jeunes disparaissent et qu'un cuisinier chinois en Afrique, ça coûte 5 000 euros par mois. Donc c'est plus cher qu'un Français maintenant qu'on fait faire venir un cuisinier. Donc dans les cuisines des hôtels chinois, ce sont des Africains. Donc eux-mêmes disent, ils sont racistes, les Chinois, etc. Mais en même temps, ils reconnaissent qu'ils n'avaient jamais construit des routes aussi bonnes, aussi rapidement. Donc vous voyez, c'est le yin et le yang. Voilà, il faut pas être obsédé par les choses. Et on est dans la phase où les problèmes, bien sûr, apparaissent.
Eh bien voilà pour les aspects africains du problème, on pourra parler des grands aspects géopolitiques, mais merci pour cet éclaircissement.
Avec plaisir.
Merci Jean-Joseph Boileau.